Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour méditer à nouveau avec vous la bonne parole de Dieu. Je vous propose une lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 1er. L'auteur de l'Épître a consacré un long chapitre précédent pour nous parler de tous les héros de la foi. Et il ajoute, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ou en d'autres termes, celui qui fait naître en nous la foi et qui l'amène à la perfection, et qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et l'auteur ajoute, « Considérez en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. » Et j'ai à cœur aujourd'hui de parler avec vous du découragement, de la nécessité de vaincre le découragement, et tout d'abord, et c'est l'objet de notre méditation aujourd'hui, de découvrir la nature exacte de ce mal. Il est important, en effet, de considérer attentivement ce sujet, car ce mal guette tout chrétien sans distinction. Qui n'a jamais connu un temps de découragement? Personne n'est à l'abri de ce mal. Quelles que soient nos années de conversion, notre âge, nos connaissances bibliques, le service que nous avons pu accomplir pour Dieu, nos plus belles expériences avec Dieu, rien ne nous garantit du découragement. Certains en sont atteints dans nos églises, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, et ils ont bien du mal à se sortir de cette terrible ornière. Georges Verwer, qui a été le fondateur d'Opération Mobilisation, un mouvement international d'évangélisation, a écrit, je le cite, « Le simple découragement constitue la plus importante cause d'épuisement de nos forces spirituelles. Personne n'est à l'abri du découragement, certains en souffrent même terriblement. » Et il ajoute, avec honnêteté et lucidité, « En fait, je suis journellement exposé au découragement. Quand vous êtes entraîné au plus fort de la mêlée du combat spirituel, devant faire face aux pressions multiples qui s'exercent sur tous les fronts, tentant l'impossible parfois, il est inévitable que vous soyez découragé. Ce sont les risques du métier et ils ne disparaissent pas lorsque vous avancez dans la vie chrétienne. » Fin de citation. Alors j'aimerais, dans un premier temps, étudier avec vous ou considérer avec vous une nuée de célébrités bibliques qui ont été découragées. Le premier homme de Dieu dont j'aimerais vous parler, c'est Élie. Nous connaissons bien l'épisode de son découragement. Nous lisons dans le premier livre des Rois, au chapitre 19 et au verset 1er. Vous connaissez le contexte. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Hier, Élie était le vaillant héros de Dieu, solide comme le roc, un homme au caractère trempé comme l'acier, le rugueux champion de Dieu, Élie, le chevalier du Seigneur sans peur et sans reproche, le serviteur de Dieu, le prophète de feu, l'homme de prière et d'action, obéissant de manière inconditionnelle aux ordres de Dieu, l'homme engagé dans les missions impossibles, les plus difficiles et les plus risquées. Hier, Élie, c'était l'homme à la fois de granit, hardi et inébranlable, le prophète hors norme, le prophète hors gabarit, dont le Dieu de l'impossible vient tout juste d'exaucer de façon extraordinaire deux de ses prières. Élie a réclamé que le feu de Dieu descende sur l'autel. Un peu plus tard, il a réclamé la pluie qui n'était pas tombée sur le pays depuis 3 ans et demi. Ça, c'était Élie hier. Aujourd'hui, c'est l'homme déboussolé, écroulé sous un genêt, l'âme en lambeaux, l'homme désarçonné, sonné, jeté à terre, mordant le sable du désert, implorant la mort. Nous assistons au crash d'un grand crack qui craque. En un rien de temps, le champion d'hier a perdu ses marques. Cet homme de Dieu remarquable a connu un profond découragement. Je relis le verset 4 du chapitre 19 du premier livre des Rois. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alors, a-t-il oublié toute la fidélité de Dieu? Élie aurait-il oublié l'expérience magnifique au torrent de Kérit, et pas un jour, mais une expérience qui s'est répétée dans le temps? A-t-il oublié la manière providentielle dont Dieu a pris soin de lui dans la maison de la veuve de Sarepta? Élie aurait-il oublié la protection de Dieu alors qu'un mandat d'arrêt international était lancé contre lui et que la police du royaume le cherchait partout pour le capturer? Monsieur Titanic, comme nous pourrions l'appeler, Monsieur Titanic, que nous pensions insubmersible, est en train de couler sous nos yeux. Le colosse, apparemment indestructible, vient de nous dévoiler ses pieds d'argile. Et je comprends que, bien plus tard, Jacques ait écrit dans son épître au chapitre 5, verset 17, « Élie était un homme de la même nature que nous ». Mais écoutez-le, il annonce brutalement sa démission à Dieu, il lui rend son tablier sans le moindre préavis, il laisse tout tomber du jour au lendemain. Nous avons ici bien-aimés frères et sœurs, une très grande leçon et un sérieux avertissement. Ne nous croyons jamais trop forts. Ne disons pas « à moi, cela n'arrivera jamais ». Vous savez ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ». Je viens de vous parler du prophète Élie. Laissez-moi vous parler quelques instants de Job. Hier, c'était le succès, la prospérité, la notoriété. Job dit au chapitre 29, verset 11 de son livre, « Je sauvais le pauvre qui implorait du secours, l'orphelin qui manquait d'appui, l'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage, la bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve, je me revêtais de la justice et elle me servait de vêtements, j'avais ma droiture pour manteau et pour turban, j'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux, j'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. » Et au verset 21 du même chapitre 29, « On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. » Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, sous les coups de boutoir de l'adversité, et on ne va pas minimiser les épreuves de Job qui ont été terribles, aujourd'hui, nous voyons l'homme en train de craquer, il maudit le jour de sa naissance et il est en train de s'enfoncer dans le bourbier de l'amertume et du découragement. Lui aussi ne pensait pas traverser un tel tunnel parce que il écrit au chapitre 29 de son livre et au verset 18, je vous lis ce texte, Job 29, verset 18. Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable, l'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. » C'est ce qu'il pensait, mais le cours de son existence en a été autrement. Élie, Job, qu'en est-il de David? Le roi David a fait une expérience du même genre. Au psaume 30, verset 7, voici ce qu'il écrit. « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang ? Il faut que nous considérions son honnête confession à l'heure où il doit faire face à une impressionnante montagne de difficultés. Il écrit au psaume 40, verset 13, « Des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Notez bien ceci, « et mon courage m'abandonne. » Élie, Job, David ont craqué, et plus d'une fois, et Moïse, cette grande figure de l'Ancien Testament, Moïse a craqué lui aussi. Confronté au murmure répété du peuple d'Israël, écrasé par le poids de sa charge, voilà ce qu'un jour il dit à Dieu. Il est attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi afflige-tu ton serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, « Porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner ? Où prendrais-je la viande pour donner à tout ce peuple ? Car ils pleurent auprès de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger !» Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Et Jonas, le prophète récalcitrant, l'homme qui a une prédication percutante et qui a provoqué la repentance de toute la population de Ninive. Quelle mission de réveil ! Eh bien maintenant, Jonas va croiser le fer avec ce Dieu bien trop bon à son goût. Et on trouve le prophète contrarié, irrité, révolté, écœuré, et lui aussi, on le voit s'enliser dans les marécages du découragement, et on le trouve là, sous son ricin, en train de demander la mort. Voilà ce que Jonas dit à Dieu, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et un petit peu plus tard, il demande la mort à Dieu et il dit, « La mort m'est préférable à la vie. » N'oublions pas Jérémie. Jérémie, c'est le serviteur courageux, fidèle, passionné pour son Dieu, un homme qui a traversé des périodes très difficiles dans sa longue carrière prophétique, une carrière jalonnée de larmes, de perplexité, d'inquiétude, de plaintes douloureuses, de révoltes bouillonnantes. Et il a connu néanmoins lui aussi des heures de sombre découragement. Je lis par exemple au chapitre 15 de son livre, le verset 10, « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. » Je lis encore au verset 18 du même chapitre, « Pourquoi ma souffrance est-elle continue ? Pourquoi ma plainte est-elle douloureuse ? Et ne veut-elle pas se guérir ? » Et il ose dire à Dieu, « Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ?» Et puis, je lis un petit peu plus loin, au chapitre 20 de son livre, verset 14. « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il t'est né un enfant mâle, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin, des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pauvre femme, pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Et que pensez-vous de Jean-Baptiste? Le Seigneur Jésus a parlé de lui comme de la lampe qui brûle et qui luit. Ce n'est pas rien que de recevoir un tel témoignage de la bouche même de Jésus. Jean-Baptiste, hier c'était le prophète anticonformiste, au langage direct. Hier, c'était pour lui la grande popularité, le succès sur les rives du Jourdain, les multitudes attirées par sa prédication vibrante et percutante. Hier, c'était les nombreux baptêmes, c'était la révélation du Messie. Et aujourd'hui, le voilà enfermé dans sa prison. Il est dans la sombre solitude d'un cachot. Il a été confronté à la haine meurtrière d'Hérodias, dont il a osé réprouver la liaison adultère. Il traverse maintenant la rude épreuve de l'incarcération arbitraire et une incarcération qui en a découragé plus d'un avant lui. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 18, nous lisons ceci: « Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. » De quoi s'agit-il? De toutes les actions magnifiques du Seigneur Jésus, ses guérisons, ses miracles, ses prodiges, et dans son cachot, Jean-Baptiste entend parler de tout cela. Alors il appelle deux de ses disciples, et l'Évangile dit, les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Mais enfin, Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain. À la sortie du baptême de Jésus, les cieux se sont ouverts et il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et maintenant, on assiste au trouble de Jean-Baptiste, à son anxiété, à sa déstabilisation. Il y a dans le cœur de ce prophète un malaise intérieur, une remise en question de son ministère passé, un profond sentiment d'abandon au fond de sa prison. C'est clair que là, Jean-Baptiste apparaît comme un homme ébranlé dans sa foi, en proie à un doute qui lui sape le moral, parce qu'il fait quand même poser la question à Jésus par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Un apôtre Paul n'a pas échappé au besoin d'encouragement. Tout d'abord, de la part du Seigneur, l'apôtre a été traduit devant le Sanhédrin, l'assemblée a été houleuse, au point que dans le chapitre 23 des Actes, au verset 10, il est dit « Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Et la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, prends courage. » C'est donc que l'apôtre avait besoin d'encouragement. « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Donc Paul n'a pas échappé au besoin d'encouragement de la part du Seigneur, mais pas seulement. Il a appris à recevoir des encouragements de la part de ses frères en la foi. Lorsqu'il arrive en Italie, il est écrit dans les Actes au chapitre 28, verset 15, de Rome, « Vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. » Il prit courage. Nous sommes partis d'Élie, et puis Job, David, Jonas, Moïse, Jean-Baptiste, Jérémie, l'apôtre Paul, quelle brochette de célébrités déprimées. Je vous ai lu au début de mon entretien avec vous ce texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. J'aimerais maintenant y revenir. Au chapitre 12, je vous lis simplement à nouveau le verset 3 qui nous parle du Seigneur Jésus. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Voici maintenant le même verset dans le texte grec. « Considérez en effet celui qui a enduré contre lui une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous fatiguiez pas dans vos âmes, vous décourageant. » Cette parole de l'Épître aux Hébreux appelle plusieurs remarques, deux en tout cas. La première, c'est que la fatigue spirituelle peut nous faire abandonner la course chrétienne. Et la seconde, c'est que l'opposition du monde peut nous amener au découragement. On le voit clairement dans ce verset que je viens de vous lire. Le découragement est un mal spirituel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que vous ne vous fatiguiez pas dans vos âmes, et nous devrions prêter autant d'attention à ce mal spirituel qu'aux maladies physiques. Et nous devrions manifester autant de combativité pour en guérir que pour guérir de nos maux physiques. Le découragement, mais quelle en est la définition ? Le dictionnaire nous dit « perte du courage, de l'énergie, de l'envie d'agir, abattement, accablement, démoralisation, désenchantement, cafard, écœurement, dégoût, lassitude, désespoir. » Le découragement, mes frères et sœurs, c'est un mangeur de sommeil, et vous en savez peut-être quelque chose. Le découragement, c'est un suceur infatigable d'énergie. C'est un tueur de rêves et d'espoir. Nous parlions de perte d'énergie, mais qui n'a pas éprouvé cela un jour ou l'autre dans sa vie? J'aimerais attirer votre attention sur ce que l'évangéliste Matthieu nous dit au chapitre 15 de son évangile, verset 32. La foule était rassemblée auprès de Jésus depuis plusieurs jours, et voici ce que l'évangéliste Matthieu nous rapporte au chapitre 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger, je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin, ou encore de peur qu'ils ne défaillent. » Et on a la même pensée dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 3, où Jésus dit « Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin. » Pourquoi vous faire lire ces textes? Parce que le même mot grec se trouve dans ces textes de l'Évangile. C'est le même mot que dans Hébreux 12, quand il est question de l'âme découragée. Il est question ici du souci de Jésus pour que les gens ne défaillent pas. C'est le même mot grec employé dans Hébreux 12, quand il est question de l'âme qui se décourage, ou autrement dit, l'âme qui défaille. Dans ce texte, je parle des deux textes des évangiles, où Jésus, juste après, va multiplier les pains. Dans ces textes, il est question de défaillir physiquement, par manque de nourriture. Jésus dit, je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. On sait bien que Jésus parle ici de défaillir physiquement par manque de nourriture, mais nous sommes menacés de défaillir sur le plan spirituel par manque de force, par manque de nourriture. Ce qui est vrai pour le corps est vrai pour notre âme. Je vais conclure en vous disant que tous les exemples que j'ai cités dans mon message, et il y en a d'autres, ne doivent pas nous inciter à nous complaire dans le découragement en nous disant « Oh, ben, si des hommes comme Jérémie, Moïse, David, Jonas et d'autres se sont découragés, c'est normal que je me décourage et que je reste dans mon état. » Nous ne sommes pas appelés à accueillir le découragement à bras ouverts lorsqu'il frappe à notre porte. Et puis, ces exemples que nous avons cités ne doivent pas nous servir d'excuse à notre mauvaise habitude, peut-être, de broyer du noir comme un moulin à café. J'ai cité au début de mon message Georges Verwer, je voudrais le citer encore à nouveau, il a écrit ceci, « Le découragement est l'une des armes les plus subtiles et les plus astucieuses dont se sert le diable pour freiner ou arrêter les progrès de l'Évangile. Il faut apprendre à démasquer cet ennemi terrible qu'est le découragement pour le vaincre. Et c'est ce que je ferai, si Dieu le permet, dans les prochains messages que je vous adresserai de la part du Seigneur. Je voudrais simplement vous laisser avec ces quelques paroles de Joseph Folier. Il a écrit « Au bout de la route, il n'y a pas la route, mais le terme de la route. Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension, mais le sommet. Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore. Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le printemps. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'espérance. » Frères et sœurs, prenons l'habitude, avec la force du Seigneur, de vaincre le découragement lorsqu'il frappera à la porte de notre âme. Soyons forts, soyons triomphants. Les hommes de Dieu s'en sont sortis, ils ont triomphé avec le Seigneur. Vous, vous en sortirez, nous en sortirons par la grâce de Dieu. Jésus a triomphé de tout découragement. Il ne s'est pas lassé, il a supporté l'opposition sans défaillir, il nous rendra capables de le faire également. Amen.